Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as raté ?
Pense au podcast. Oui !
Oui, bonjour, c'est les chroniques des médiathèques, bienvenue, bonjour. Alors, aujourd'hui, il y a Claudie qui va nous parler d'un roman, moi je vais vous parler d'une série, Aurélie est aussi en studio pour vous parler d'un album, et Annie terminera avec un autre livre, mais qui porte sur la musique. Et tout de suite, on commence, allez, c'est à toi Claudie.
Merci Anne et bonjour à tous. Pour commencer, je vous propose tout de suite de vous lire quelques lignes du roman que je souhaite vous présenter. Avant de s'accorder une halte, il avait marché dans l'obscurité des bois, une heure, deux heures peut-être. Sa lucidité était encore troublée de la matière qui habite le temps lent de la nuit et s'oppose à l'idée même de mouvement, brouille la perception de l'espace, désoriente les corps et le cours ordinaire des pensées. Il était bel et bien éveillé, mais ses impressions se déplaçaient en crabe dans son esprit. Impossible d'en saisir une qui fila à peu près droit. Sa dernière échappée, sous les étoiles avant celle-ci, il ne pouvait décidément pas la dater, ni même définir avec qui elle avait eu lieu. Avec Paolo, avec Arnaud, ou encore avec la fille Mercier, ça n'avait aucune importance. Et c'était, de surcroît, forcément différent. Cette fois, il était seul. Et il s'agissait d'une fuite, pas d'une joyeuse équipée. Parmi les nombreux romans de cette rentrée littéraire, j'ai choisi ce roman, Pleine Lune, de Corinne Royer. Les quelques lignes que je viens de vous lire, ce court extrait, très 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 bien écrit. Ce livre, moins médiatisé que certains, s'inspire d'un fait divers qui est survenu en 2017 en France et qui parle de la cavale d'un agriculteur. Jacques Bonhomme, le nom du narrateur, hérite de la ferme familiale. Il élève ses vaches, est soucieux du bien-être animal et d'une agriculture raisonnée. Il vit entouré de sa famille et adore son métier qu'il exerce avec passion. C'est un homme imposant qui inspire confiance dans le monde agricole. Mais c'est également un homme révolté. Albert Camus, cité au début de ce roman, définit parfaitement bien le tempérament de Jacques. Je vous livre ici sa citation. Qu'est-ce un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Jacques s'engage dans un syndicat agricole car il souhaite combattre toutes ces normes administratives françaises et européennes qui sont imposées aux paysans et qui empoisonnent leur vie. Est-ce cet engagement qui déclenche de la part de l'administration française des contrôles fréquents, pointilleux et harassants de son exploitation agricole ? Qui vont faire basculer Jacques, ce colosse au pied d'argile, sur un chemin de non-retour. L'auteur nous décrit avec finesse tous les états d'âme de Jacques et de ses proches. Elle nous fait toucher la dure réalité du monde rural et décrit avec humanité la vie de ces paysans d'aujourd'hui qui exercent leur travail avec conviction et amour. Elle nous explique très bien pourquoi la productivité néfaste pour la planète et des effets pervers qu'elle engendre chez les personnes. Beaucoup de paysans perdent le sens de leur travail et parfois même leur raison d'être qui pousse certains et même beaucoup jusqu'au suicide. Ce beau roman, très bien écrit, qui traite d'un sujet très rarement traité dans la littérature contemporaine française, est à lire de toute urgence. Je vous rappelle le titre de ce roman, Pleine Lune, de Corinne Royer aux éditions Actes Sud, bien sûr présente dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Je passe maintenant la parole à Anne pour une série.
Oui, bonjour. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Cette chronique-là est mon avant-dernière chronique Radio B. C'est ma dernière chronique vidéo et ne pleurez pas. Tout est bien, qui finit bien. Enfin, je ne suis pas si sûre car je vais vous parler d'une mini-série en 6 épisodes qui peut vous laisser un peu dans le doute quant à la teneur du dénouement. Et je vous préviens que je vais un peu casser l'ambiance. Alors imaginez. Imaginez qu'une personne célèbre et reconnue, célèbre parce qu'elle a traversé pour la première fois l'Atlantique en avion, par exemple, mais elle pourrait être célèbre parce qu'elle a été actrice ou éditorialiste, par exemple. Imaginez qu'elle entre petit à petit sur la scène politique pour exprimer tranquillement des idées d'extrême droite, tout en se targuant de simplement vouloir protéger la paix d'une nation. Mais ce pourrait être la protéger du chômage, la pauvreté ou la perte de repères, que sais-je encore. Bon, imaginez que cette personne gagne en popularité et soit finalement élue présidente et mette en application sa logique nauséabonde en stigmatisant une partie de la population pour sa religion ou ses origines. Grinçant, n'est-ce pas? Voilà le pitch des prochaines élections. Non, c'est pas ça. Je vous parle en fait de la mini-série The Plot Against America, adaptée du roman de Philip Roth, créé par le génialissime David Simon et le génialissime Ed Burns, les créateurs de la mythique série Sur Écoute. Cette série est désormais disponible à la médiathèque Césaire. L'histoire part d'un fait réel. La célébrité de Charles Lindbergh, ses penchants nazis, Lindbergh n'a jamais caché sa sympathie pour Adolf Hitler, et ses penchants antisémites et ses positionnements politiques. La fiction intervient quand Lindbergh devient candidat aux élections présidentielles aux États-Unis et accède à la fonction grâce à une population exaspérée et une communauté juive incrédule et médusée. Petit silence qui va bien. La série nous emmène dans une famille de confession juive à Newark, dans le New Jersey, dont les membres, enfants ou adultes, observent et réagissent de façon plus ou moins radicale la montée en puissance de Lindbergh et de son mouvement « America First ». Entre admiration pour un héros national, éprouvé par le fils Levin, incrédulité voire naïveté criminelle pour Evelyn Finkel, en passant par une sorte de collaboration étrange, celle du rabbin Bengelsdorf, et la rage blanche d'Hermann Levin, on retrouve au long de ces 6 épisodes des postures, des paroles que l'histoire a rendues célèbres. On sait comment le nazisme a détruit, tué, exterminé, et comment les populations visées par la barbarie ont réagi ou non. Fuir? Refuser de partir? Courber les chines? C'est ce qui fait vibrer le spectateur face à ces personnages. C'est ce qui les rend humains aux yeux du spectateur. Tout est fiction, mais tout s'est déjà passé dans cette uchronie. Une uchronie, c'est un récit fictif à partir d'un fait historique. Tout s'est passé déjà dans ce monde, d'une façon ou d'une autre. Bon, sur la forme, c'est très beau. Les décors, les costumes et les acteurs, tout est sur le fil, ni trop, ni pas assez. Ce qui permet au spectateur de se fondre dans cette histoire, d'aimer ces personnages avec leur fougue, leur fragilité ou leur colère. David Simon et Ed Burns savent clairement installer les situations, les faire monter en pression. Et comme c'est ma dernière chronique vidéo, j'irai jusqu'à dire qu'ils savent faire battre le cœur, carrément, d'empathie, de tendresse, et puis de rage, et de colère, de désillusion. Parce qu'avec tout ça, dans The Plot Against America, c'est une uchronie qui amène à se demander qui aurions-nous été dans ce monde. Hermann et sa colère, Elizabeth et sa peur, et sa volonté de se sauver, elle et sa famille. Aurions-nous été Evelyn qui voudrait tellement se sortir de sa condition et rayonner un peu, quitte à détourner le regard de l'horrible évidence? Ou alors on pourrait dire, The Plot Against America est une uchronie qui nous amène à nous demander qui pourrions-nous être si l'histoire venait à se répéter encore un peu une fois. Voilà. C'était donc ma dernière chronique vidéo. C'est super joyeux et du coup, Aurélie, vas-y, fais monter l'ambiance.
Alors heureusement, je suis là avec un peu de légèreté, donc avec un album jeunesse. Connaissez-vous Roland l'éléphant? Né de l'imagination de Louise Maisel, Roland est un petit éléphant, tout ce qu'il y a de plus attachant. La maison d'édition La Joie de lire ne s'y est pas trompée, car Roland a l'honneur d'être le sujet d'une série de livres qui compte à ce jour 5 titres. Dans le premier, Roland l'éléphant se présente. On apprend à faire connaissance avec Roland. Son quotidien, ses rêves, les secrets qu'il confie aux plantes qu'il fait pousser avec amour. Entre l'enfant et l'animal de compagnie, Roland est l'éléphant qu'on rêverait tous d'avoir chez soi. Mais l'un de mes titres préférés de la série est « Roland, l'éléphant se déguise », dont je vais vous lire le début. Dans un vieux coffre en bois, Roland garde un précieux trésor. Quand tout le monde est endormi et qu'il n'a pas sommeil, Roland sort sa petite clé. Il la fait tourner 3 fois dans la serrure avec sa trompe. Cric, crac, cric. Le coffre s'ouvre d'un coup et laisse échapper sa collection de déguisements. Pompiers, chevaliers, cygnes, lions ou pharaons, Roland se glisse dans chacun de ses costumes. Vous ne pouvez pas le voir, mais Roland est tellement adorable dans ce déguisement. Et oui, comme chacun sait, un éléphant, ça...
trompe énormément.
Ça trompe énormément. Et Roland est un as du camouflage. Alors à la radio, on ne peut pas montrer des images. Non, c'est pas vrai. Et c'est bien dommage. Les illustrations de Louise Maisel sont très simples, tracées au crayon, avec un peu de couleur. Et elles sont si simples que l'un de nos collègues, qu'on va dire peu sensible, les a qualifiées de « vrai chum ». Alors pour anciens et les plus anciennes, on pourrait traduire cette assertion par « plutôt laid ». Alors moi je trouve au contraire que c'est cette économie de détails qui donne tout son charme à Roland. Dans le dernier opus, Roland artiste, on retrouve notre éléphant favori à la Villa Médicis, à Rome. C'est pour moi le meilleur des livres de la série. Louise Maisel et Roland nous incitent à les suivre dans cette résidence d'artistes et nous en font découvrir tous les trésors. Pour le coup, il y a davantage de détails à observer dans les dessins que dans les précédents. Roland nous invite à la flânerie et à la rêverie à travers la visite du musée et de ses œuvres. Le lecteur est transporté en Italie, au milieu des artistes. C'est une véritable ode à l'imagination. En bref, si cette chronique vous a donné envie de rencontrer Roland l'éléphant, vous le trouverez caché, peut-être déguisé, dans les bacs à albums de la médiathèque Césaire. Et à présent, je laisse la parole à Annie.
Bonjour à tous. Alors, j'ai choisi un coup de cœur livre et je vous présente Brassens l'Enchanteur, une vie au jour le jour par Bernard Longeon. Bernard Longeon est un spécialiste de Georges Brassens. Voici son 4e livre consacré au chanteur. La particularité de ce dernier, c'est d'avoir choisi de reconstituer la vie et l'œuvre de Brassens en détaillant année après année, mois par mois et parfois jour par jour. Tout y est, les enregistrements, les spectacles, les rencontres, les interviews, les voyages, la famille, les amis, les articles de presse, les émissions de télé et j'en passe. Et ces 500 pages se dévorent avec facilité et avidité, car c'est une vie foisonnante et passionnante que celle de Tonton Georges, le polisson de la chanson. Pour écrire ce livre si complet, Bernard Longeon s'est appuyé sur les œuvres complètes de Brassens, éditées par Jean-Paul Liégeois, sur l'énorme revue de presse mise en ligne par Philippe Bory et Pierre Schuller, sur la revue Les Amis de Georges, pour les dates clés de tous les spectacles et toutes les émissions de télé, et enfin sur les archives de Serge Casani. Trois périodes pour résumer cette vie si bien remplie. De 1921 à 1939, c'est l'enfance et l'adolescence à 7, entouré par des parents aimants. Petit garçon bougeon, Brassens n'aimera pas l'école, et pour cause. Une maîtresse l'enfermera dans un placard alors qu'il n'a que 3 ans. L'esprit rebelle est en marche. Il quittera 7 pour Paris en 1940, suite à un vol de bijoux avec une bande de copains. Une erreur de jeunesse que les Sétois auront du mal à lui pardonner. À Paris, logé par sa tante, il sera quelques mois ouvrier chez Renault, puis un bombardement mettra fin à ce travail. Il va alors se consacrer à ses passions, lire, écrire. Il achètera des recueils de poésie chaque fois que ses faibles moyens le lui permettront. Très vite, il écrira des chansons en imitant d'abord les artistes qu'il admire. Ray Ventura, Mireille, Jean Nohain, Charles Trenet. Puis, il va chercher son propre style en se nourrissant de poésie et de littérature. De 18 ans à la fin de sa vie, sa boulimie de création n'a jamais cessé. Avant d'être célèbre, il écrit, compose et dépose ses créations à la SACEM. Et c'est seulement après avoir écrit une centaine de chansons qu'il cherche à les colporter. De 1940 à 1951, c'est une décennie marquée par la pauvreté, la faim souvent éprouvée dans le petit appartement où il vit avec Jeanne et Marcel. Il écrit des articles pour la presse libertaire et va tenter de créer un journal anarchiste avec des amis, mais qui ne verra jamais le jour. Il essaie de jouer ou de faire jouer ses chansons dans les cabarets, mais ça ne marche pas. Enfin, un jour, le 24 janvier 1952, son ami Victor Laville l'emmène dans le cabaret de Lady Patachou et tout va démarrer. Sa carrière est lancée et quelle carrière! Petite citation, alors qu'il est mort de trouille dans le cabaret de Patachou, voici la réaction de Patachou. Patachou, éberluée, exulte. « Votre copain est formidable !» me dit-elle enthousiaste. « Revenez me voir demain pour goûter à 4 heures. » Et c'est là que je compris que c'était gagné. De 1952 à 1981, 30 années de concerts non-stop. Exemple, pour l'année 1955, il fera 138 galas, un tous les 2 jours et demi, comme si il faisait 2 fois le tour de la Terre. 30 ans de concerts partout en France et dans des lieux prestigieux. Les Trois Baudets, Bobino, l'Olympia, de nombreux galas pour de nobles causes, pour la paix, contre la peine de mort, pour des associations. Et des concerts dans tous les pays francophones, Belgique, Suisse, Afrique du Nord, Canada. De très nombreux artistes, journalistes, écrivains, cinéastes, amis témoigneront du talent et de la générosité de Brassens. René Fallet, Boris Vian, Jean Ferrat, Charles Trenet, Georges Moustaki, Juliette Gréco, Anne Sylvestre, Johnny Hallyday, Yvan Audouard, Bernard Clavel, Aline Giono, etc., etc. Pour terminer cette chronique et vous donner le ton de ce fabuleux livre, j'ai choisi 2 extraits. D'abord, le bel éloge écrit par Louis Nucera dans le Courrier Picard en 1973. Les grands thèmes du bonheur et du malheur des hommes, Brassens les a chantés. Sans sombrer dans l'anecdote, s'il parle de la guerre, toutes les guerres sont condamnées. S'il décrit un individu, à travers lui, d'autres êtres se reconnaissent. Il sait qu'il est plus aisé de désintégrer un atome qu'un préjugé. Ce sage, comme les vrais sages, a la tristesse des lucides. Il n'hésite pas à dire « Je suis complètement désespéré ». Ses chansons sécrètent un antidote à ce désespoir. Tendresse et humour les baignent. Et aussi la foi dans le beau langage, qui est une forme d'optimisme. Que l'on sache seulement que le poète qui chante pour nous depuis plus de 20 ans a mis autant de talent dans sa vie que dans son œuvre. Et le mot de la fin revient à Bernard Longeon, l'excellent auteur de ce livre. Depuis 1981, sa voix chaude de méridional n'a jamais cessé de vibrer, au fil des générations qui continuent de colporter ses chansons. Car nous sommes tous des passeurs, et je suis toujours émue d'entendre des enfants de maternelle annonner le petit cheval, des adolescents rapper sur la mauvaise réputation, ou scander le mécréant, des chorales reprendre les copains d'abord ou l'orage. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre. Vous trouverez cette merveille à la médiathèque Césaire dans les nouveautés. C'était la chronique des médiathécaires de Bourque. Bonne écoute, bon visionnage et bonne lecture. Au revoir et à bientôt sur Radio B.
Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Wouhou !